La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si le nom de Dante provoque des frissons, ce n'est pas seulement parce qu'il nous évoque l'enfer. C'est aussi parce que ce poète est immense et impressionnant, parce qu'il a traversé les siècles et inspiré les plus grands. Balzac a transformé la Divine Comédie en comédie humaine et a fait de lui un personnage de ses récits les Florentins. Victor Hugo l'a vu comme un génie dans les pas duquel il se place. Quant à Nerval, il se définissait lui-même comme l'une des réincarnations de Dante. Il n'y a donc bien que Peggy pour penser que Dante a traversé l'enfer à la manière d'un touriste. On le voit, la postérité de l'auteur de la Divine Comédie n'est pas mince. On le considère même comme l'un des pères de la littérature européenne avec Cervantes et Rabelais. Dans notre premier épisode, Bruno Pinchard nous a détaillé sa vie, tandis que Didier Ottaviani a pris à sa charge le parcours de l'œuvre dans le deuxième épisode. Et puis c'est Jean-Pierre Ferrini qui nous conduira au dernier cercle de cette compagnie avec une émission consacrée aux relectures dantesques dans le quatrième épisode. Et aujourd'hui...
La France est le pays de Dante. Du fait que vous allez dans n'importe quelle librairie, vous trouverez 5 ou 6 traductions présentes de la Divine Comédie. C'est une grande exception quand on compte, quand on regarde les autres grands classiques. Vous avez au plus 2 traductions présentes, imaginons 3, de Shakespeare, alors que pour Dante, c'est déjà 6 ou 7, et avant 21, il n'y aura d'autres. Donc c'est un élément extrêmement important.
Qui sont les héros des Odyssées ? Sont-ils beaux ? Sont-ils laids ? Qui veut le velouté d'un désiré ? Des visages déridés.
La voix de Carlo Ossola, professeur au Collège de France, pour débuter cette émission. Alors aujourd'hui, on va parler de la Divine Comédie que vous avez traduite. Daniel Robert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez donc traduit l'Enfer en 2016, puis le Purgatoire en 2018 et enfin le Paradis en 2020. Tout cela aux éditions Actes Sud. On peut dire que vous apportez de l'eau au moulin de Carlo Ossola quand il dit que la France, c'est le pays de Dante, finalement.
Oui. Oui, c'est vrai, et c'est une très grande chance, et je pense que il est très important qu'un écrivain de cette dimension, un poète de cette dimension, soit lu, encore lu, et traduit dans toutes les langues, et à toutes les époques.
Il y a quelque chose qui explique quand même l'engouement français pour Dante, ou pas ?
Je pense qu'il y a une proximité de culture, il y a toute une histoire qui nous est commune avec les Italiens, une fraternité de culture, de langue, de préoccupation. Donc, je crois que c'est assez normal.
Oui. Bon, Voltaire ne l'aimait pas. Il disait que oui. C'était un salmigondi d'un goût bizarre que la comédie, oui. La Divine Comédie. Mais enfin, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, vous avez aussi traduit Ovide, toujours chez Actes Sud, Les Métamorphoses, Les Lettres d'Amour, Les Écrits Érotiques, tout récemment Triste et Les Pontiques. Est-ce qu'on peut faire un parallèle d'ailleurs entre Ovide et Dante ?
Oui, ce sont 2 géants. Donc on peut tout à fait faire un parallèle. Ovide a été, de son vivant, considéré comme le plus grand poète de l'amour, à l'époque d'Auguste. Dante est également le grand poète de la langue italienne et aussi de la lyrique italienne.
Oui, c'est le poète de l'amour, c'est pas le poète de la guerre.
De l'amour, Dante. Bien sûr. Et de plus, Dante fait des références très très nombreuses à Ovide tout au long de la Commedia. Un peu moins en enfer, mais dès qu'on aborde le purgatoire et jusqu'au paradis, il y a constamment des citations emprunté à Ovide et que Dante écrit en italien, en tierce rime, et également beaucoup de références aux mythes racontés dans les Métamorphoses.
Donc l'amour, c'est le sujet, alors, finalement, de la Divine Comédie ?
Oui, oui. Le sujet global, et qui englobe tous les autres sujets. Tout se ramène à l'amour dans la pensée de Dante. Mais quand on dit l'amour, c'est avec un grand A, c'est-à-dire c'est l'amour auquel il pense, qui est ce qui permet de se transformer totalement, de se transfigurer, de se transhumaner.
De se transhumaner.
Je ne dis pas transhumaniser, moi, je pense que le transhumanar, la possibilité de traverser l'humain, de traverser, trans en latin, ce n'est pas outrepasser, mais passer à travers l'humain pour atteindre ce qu'il peut y avoir de plus beau dans l'humain, non pas pour devenir Dieu, mais pour aller au-delà de ses limites.
C'est pas le désir, l'amour chez Dante ?
Le désir ? Mm-hmm. Alors, il emploie le mot désir, mais ce n'est pas le désir sexuel ou le désir amoureux entre les humains. Enfin, bien sûr qu'il y a ça, mais son propos, c'est de passer de cet amour-là, humain, et sur lequel il ne crachait pas, de passer à une autre dimension de l'expérience amoureuse. Oui. Et l'expérience amoureuse, c'est, à mon avis, c'est celle de la parole poétique. Mmh. C'est l'amour de la langue et de la poésie qui font qu'on se dépasse.
C'est peut-être pour ça que, dès 18 ans, Dante fait partie de ce cercle, le cercle des fidèles d'amour, qui sont au fond qui est un cercle poétique.
Tout à fait, c'était un cercle de poètes d'avant-garde, commandé, dont le chef de file était Guido Cavalcanti. Et Cavalcanti avait une quinzaine d'années de plus que Dante, et Dante lui a envoyé un poème. Et à la suite de ce poème, auquel Cavalcanti a répondu, il est entré dans le groupe des fidèles d'amour.
C'était en dehors de l'église de Santa Maria Novella, il y avait une série d'arches dans lesquelles il y avait des tombeaux tout autour. Et Cavalcanti aimait se promener solitaire là, de ce côté-là, comme d'ailleurs Dante aimait lui rêver en s'asseyant sur une pierre devant le baptistère de Florence. Et ils avaient tous les deux ce côté de rêveur solitaire. Et pendant que Cavalcanti était au milieu de ces arches qui contenaient donc ces tombeaux, et toute une brigade de jeunes gens qui étaient amis de Brunelleschi viennent lui demandent « Enfin, mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec nous, Guido, viens avec nous t'amuser au lieu, qu'est-ce que tu obtiendras une fois que tu auras démontré que Dieu n'existe pas ?» Et Cavalcanti, au lieu de répondre et de les regarde un moment et puis dit « Je vous laisse, vous êtes ici chez vous. » Il se prend appui sur une arche, il saute par-dessus l'arche et il s'en va en les laissant complètement déconcertés. Jusqu'à ce qu'un des deux dise « Mais qu'est-ce qu'il veut le dire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est chez nous ici ?» Et l'un de l'autre dit « Il a voulu dire que nous sommes en réalité, nous sommes morts. Parce que nous sommes ici chez les morts et ça nous va bien parce que lui est vivant. Mais nous, non, on est morts pour lui. » Et ce qui voulait dire en réalité que pour Cavalcanti, cette sorte de vie à ras de terre, en fait, cette espèce de vie d'hédoniste florentin, lui paraissait un équivalent de la mort. Alors que ce qui fait vivre, c'est de penser.
De Jacqueline Risset, on peut signaler que vous avez aussi traduit des rimes de Cavalcanti aux éditions Vagabondes, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette archive sur le côté, peut-être, je ne sais pas, si on voulait être anachronique, on pourrait dire janséniste un peu de Cavalcanti.
Il était très loin d'être janséniste.
Ah bon. Ils étaient tous très loin d'être jansénistes, finalement.
Ah oui, oui. Non, je crois. Il avait un tempérament assez fougueux. Il était certainement assez arrogant, assez. Il y avait beaucoup de panache, hein, mm-hmm. Personnage un peu à la Gassman.
Comme Dante alors, hein. Tous les deux étaient un petit peu sur ce mode-là.
Oui, oui. Un caractère différent quand même. Mais cette anecdote, elle est assez amusante, mais on peut l'interpréter de façon différente. Je pense que la réponse de Cavalcanti à ces jeunes gens concerne la question qu'il lui pose. Quand vas-tu dire enfin que tu ne crois pas en Dieu ? Il n'a jamais dit qu'il était athée. Il ne pouvait pas dire ça à cette époque. Il aurait fini sur le bûcher. Mmh. On ne sait pas s'il était athée. Peut-être ne l'était-il pas. Mais il était très distant par rapport à la religion et très ironique, souvent, voilà, contrairement à Dante. Et ce qui les a séparés plus tard, c'est la conception de l'amour qui était très différente chez l'un et chez l'autre.
C'est-à-dire
que Cavalcanti considère que la passion amoureuse, mais la passion humaine, fait des ravages dans la personne qui l'éprouve. La personne qui tombe amoureuse perd toutes ses facultés, il le dit. On appelait ça les esprits.
Un peu comme Barthes dans les fragments d'un discours amoureux. Fin de parenthèse.
Il perd toutes ses facultés et l'issue de cet amour, c'est forcément la mort. C'est le désespoir, c'est la mélancolie. Bon, tout ça s'inscrit dans une histoire qui est celle de l'amour courtois et la figure de la dame qui est tout à fait idéalisée, qui est lointaine, souvent dure avec son amant. C'est un amour à sens unique, hein, l'amour courtois. Et pour Cavalcanti, dans les rimes, c'est toujours ça. Il ne dit jamais à la femme qu'il l'aime. Jamais. Ouais. C'est une sorte d'image, de figure devant laquelle il est en extase et il sait que cette figure-là peut le tuer. Alors Dante, lui, reprend cette thématique courtoise, mais il la transforme complètement en inventant la figure de Béatrice, je dis la figure poétique de Béatrice, bien qu'elle ait existé, et lui va faire de Béatrice le guide qui va lui permettre d'accéder justement au Trasumanar et de découvrir les vérités qu'il est incapable de découvrir sans elle.
Est-ce que Cavalcanti a pu avoir une influence sur la Divine Comédie ? Et si oui, comment appréhender cela ? Comment le savoir ? Comment le deviner ?
Forcément, il a eu une grande influence sur la pensée de Dante quant à la poésie. C'est évident. Il était plus âgé que lui. Il a un peu joué un rôle de grand frère au départ dans l'histoire de ce groupe des stilnovistes. Ensuite, il a forcément influencé beaucoup le travail de Dante. Mais Dante a fait son chemin tel qu'il le voulait et à un certain moment ils ne se sont plus entendus sur cette question. Il n'y avait pas que ça. Il y a des questions politiques, il y a peut-être des questions familiales ou personnelles qui ont joué, ça on ne sait pas vraiment de quel ordre, mais sur le plan poétique, je pense que il y a eu affrontement entre eux.
Ouais. Alors, parlons peut-être un petit peu de la modernité de la Divine Comédie, qui est une œuvre qui surgit comme ça dans l'histoire de la littérature. Pourquoi est-elle moderne ? Il y a de nombreuses raisons qui font qu'elle est moderne. La première, c'est peut-être que c'est un poème en italien. Alors ça, ça tranche par rapport évidemment à la tradition qui est d'écrire en latin. Y a-t-il une autre modernité parce que la modernité, j'imagine, à cette époque, se pense toujours en fonction de l'Antiquité. Y a-t-il une autre modernité qui relève du rapport au réel, du rapport à l'histoire ?
Absolument. Sa modernité, c'est la création d'une forme qui coïncide parfaitement à son propos. Dans la Divine Comédie, il crée un type de un style que personne n'a utilisé avant lui. C'est la fameuse tierce rime, qui elle-même s'inscrit à l'intérieur d'une terzine, mais je crois que vous en avez déjà parlé.
Oh, non, on n'a pas vraiment parlé de tout ça, on n'est pas rentré dans les détails.
La tierce rime, ce n'est pas un ornement, ce n'est pas une manière un peu amusante d'utiliser la rime, c'est une construction, c'est la cellule d'une construction qui aboutit à l'ensemble de l'œuvre. C'est à partir de cette tierce rime que tout se construit, à partir, c'est-à-dire du 1, du 3, de tous leurs multiples. Et ce 1 et ce 3, à la fin de l'œuvre, on comprend, quelquefois on le comprend même un peu avant, on comprend sa raison. C'est l'affirmation par Dante de sa foi dans la Trinité. Oui. Voilà, la totalité, le 1 et le 3. Une seule substance en trois substances.
Donc le 3 est absolument partout. Oui. Vous signez d'ailleurs que Dante situe la vision du voyage qui l'a conduit de l'ombre vers la lumière, c'est-à-dire de l'enfer au paradis, en 1300.
Oui.
Faut ajouter aussi que l'enfer est composé de 9 cercles, dont le 7e se divise en 3 anneaux, et le 8e, alors là il n'y a plus de 3, en 10 bolges.
Oui, les bolges.
Qu'est-ce que c'est un bolge ?
Bolge, c'est peut-être une caverne, un creux, une espèce de...
Une douve, peut-être ?
Oui, ça peut être.
Et puis, alors, le chiffre 3, on le retrouve aussi dans les trois bêtes à la sortie de la forêt obscure. Oui, est-ce qu'il y a d'autres endroits encore ?
Les trois dames, puisque Marie délègue Béatrice, qui délègue Lucie pour parler à Virgile et lui demander de devenir le guide de Dante. Constamment, on a le chiffre 3. Lucifer, au centre du Cocyte, dévore trois traîtres.
Il a trois têtes.
Ouais. Il a trois têtes. Partout, on a le 3 qui réapparaît constamment.
Oui. Cette terzina, elle vient d'où ? Enfin, c'est les troubadours qui l'ont amenée ? C'est une tradition ?
Non. Qu'est-ce que c'est une strophe de 3 vers, de 11 syllabes. Alors, ce ne sont pas des endécasyllabes comme nous, en France, nous pouvons les connaître. L'endécasyllabo italien est très particulier. Il a une structure, métriquement, il a une flexibilité, une souplesse que n'a pas notre vers, par exemple notre alexandrin. Non pas que l'alexandrin ne puisse pas apporter des joies esthétiques extrêmes, on n'a qu'à lire Racine, mais l'endécasyllabo permet au poète d'être extrêmement libre dans son propos sur le plan rythmique. Et il joue du rythme à sa convenance. Dans ce vers de 11 syllabes, on dit qu'il a 11 syllabes parce que il y a toutes sortes d'astuces qui permettent de le réduire à 11 syllabes. C'est-à-dire qu'on peut faire des élisions, même graphiquement. On peut faire des diérèses, là où normalement on n'en ferait pas dans le langage commun. Et lorsque on lit certains vers de la Commedia, si on écrit toutes les lettres telles qu'elles devrait être écrite sans ces élisions, on trouve 13, 14, 15 vers.
Et alors vous avez...
15 syllabes.
Vous avez cherché à respecter cette espèce de musique, oui, dans la traduction.
Oui.
Ça ne doit pas être facile.
Ce n'est pas facile, mais sur le plan métrique, étant donné que ce vers est très souple et que nos vers pairs offre moins de possibilités, mais que d'autre part, l'endécasyllabo s'entend un peu comme un décasyllabe parce que la dernière syllabe n'est pas accentuée, l'accent se trouve sur l'avant-dernière, la pénultième. J'ai joué en partie sur le décasyllabe et en partie sur l'endécasyllabe. J'ai fait des vers de 10 et 11 syllabes, mais pas de façon mécanique.
L'enfer est abordable à travers Aristote, c'est vrai. À tel point que Dante avait même pensé, dans un premier projet, prendre pour guide, non pas Virgile, mais Aristote lui-même. Ce qui est assez amusant à penser rétrospectivement. Parce que pour Dante, Aristote était vraiment celui qui savait tout, le philosophe des philosophes. Et il faut rappeler que Dante ne connaissait pas bien Platon, il connaissait très peu de Platon, et que Aristote était la grande découverte du Moyen-Âge, et qu'il permettait de penser même les choses chrétiennes. Donc c'est aussi une des clés de ce rapport tout à fait extraordinaire qu'il y a chez Dante, dans les images même de l'enfer, mais aussi du purgatoire et du paradis, de cette image prodigieusement mêlée à tous les niveaux entre l'Antiquité et la chrétienté. Dante n'est pas de ces chrétiens qui détestaient les païens et qui pensaient qu'ils devaient rôtir dans les bouilloires infernales, mais au contraire, il les voyait comme des sortes de chrétiens à qui il avait manqué une petite lumière. Et c'est peut-être aussi la clé extrêmement riche, extrêmement poétique et dense du personnage de Virgile même dans l'enfer, qui est un personnage qui est le maître, puisque c'est lui qui accompagne Dante, et que Dante lui fait une sorte d'hommage extrêmement fort dans le premier chant. Il dit « Tu es le maître qui m'a appris le style, c'est-à-dire tout pour un poète. C'est celui aussi qui a vécu sous l'empereur Auguste, c'est-à-dire, pour Dante, au seul moment connu où l'humanité n'avait pas de guerre, où l'humanité avait la paix. » Ça coïncide avec la naissance et la vie du Christ. Il y a donc toute une série de signes chez Virgile qui en font une sorte de précurseur et d'annonciateur du christianisme.
À la moitié du trajet de la vie, je me retrouvais au fond d'un bois sans écarté.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Sa modernité à Dante, Jacqueline Risset, elle vient aussi, comme l'expliquait à l'instant en archive Daniel Robert, elle vient du métissage des sources qu'il utilise.
Bien sûr. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est assez commun aux écrivains du Moyen-Âge, le métissage. On ne peut pas dire que sa modernité vienne de là.
C'est vrai qu'il y a à la fois le monde chrétien, le monde païen, même peut-être le monde islamique qu'on
retrouve. Ah oui, certainement. De toute façon, la pensée d'Aristote dont parle Jacqueline Risset et à laquelle Dante était très attaché, elle ne lui est pas venue par la lecture du grec. Il ne connaissait pas le grec. Au Moyen-Âge, on ne connaissait pas le grec. Elle lui est venue des philosophes arabes, dont Averroès, Avicenne, et Averroès qui a traduit la Bible, les textes sacrés en arabe. Et les philosophes arabes ont été beaucoup goûtés par les synovistes et les poètes de cette époque.
Bon, alors après cette longue introduction sur la Divine Comédie, il faut quand même qu'on en vienne un peu à l'essentiel. On va commencer avec un extrait de l'Enfer. Prenons le début.
Étant à mi-chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, la route droite ayant été gauchie. Ah, combien en parler, chose dure, de cette forêt rude et âpre et drue, qui à nouveau un effroi me procure. Si aigre que la mort l'est à peine plus, mais pour traiter du bien que j'y trouvais, je parlerai des choses que j'ai vues. Ne sais pas bien dire comme y entrer, étant alors si plein de somnolence, que de la route vraie je m'écartais. Mais arrivé au pied d'une éminence où cette vallée avait abouti, qui avait effrayé mon cœur d'abondance, levant les yeux, ses épaules, je vis, déjà vêtu des raies de la planète, qui conduit droit par tout chemin autrui. La peur alors me devint plus quiète, qui dans le lac du cœur m'était restée la nuit que j'avais passée si inquiète. Et comme lorsque, le souffle coupé, au sortir de la mer et vers l'estran, on se tourne et on scrute l'eau du danger. Ainsi mon âme, encore en s'enfuyant, se retourna pour contempler le pas qui ne laissa jamais de survivants.
Notre vie,
par Michael Cohen de ce premier chant de l'enfer. Dans votre traduction, Daniel Robert, on commence par l'enfer, mais est-ce qu'on a raison finalement?
Ah, je pensais que nous allions parler de ce,
passage. On peut parler aussi du passage.
Oui, commencer par l'enfer, bien sûr, c'est logique. Et poursuivre par le purgatoire et ensuite le paradis. C'est tout à fait la pensée de Dante et de cette logique-là, il faut la suivre.
Ça va dans ce sens-là. Alors qu'est-ce que vous voudriez dire sur cet extrait, sur ce passage ?
Bien, déjà, il y a dans ces premières strophes, ces premières terzines, tout l'ensemble de la modernité de Dante. Il y a, parce que ça ne se limite pas à une question de utilisation de vers, il y a la tierce rime qu'on entend, et il y a l'usage qu'il fait des mots. Uniquement la première strophe, étant à mi-chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, la route droite ayant été gauchie. Bon, j'ai traduit smarita par gauchi. Or, l'adjectif smarita veut dire perdu, égaré. Bon, pourquoi l'ai-je traduit ainsi ? Au premier abord, on peut se dire, oui, elle avait besoin d'une rime en i. Étant à mi-chemin de notre vie,
On pourrait se dire ça, oui.
Bien sûr qu'il y a ça au départ. Mais cette contrainte que je m'étais donnée dès le départ, elle m'a aidé à trouver le sens profond du verbe, de l'adjectif, pardon, smarit, qui n'est pas ici perdu strictement. Pourquoi ? La route droite, la diritta via, era smarita. Dante oppose exactement les deux adjectifs, diritta et smarita, pour qualifier le mot route. Et qu'est-ce que c'est qu'une route qui n'est plus droite ? C'est une route qui est déviée, qui est gauchie. Donc, il n'avait pas perdu sa route comme le petit poussé. Il n'était pas perdu dans la nature. Il avait fait dévier sa route vers le mal, vers quelque chose qui ne convenait pas.
Vers le péché.
Et voilà. On peut le dire aussi comme ça, ou vers la perte des valeurs qui sont celles d'un grand poète, peut-être. Ça peut être sur n'importe quel... Là, on voit que il donne à l'adjectif smarita un autre sens que celui qu'il a habituellement. Et ce n'est pas parce que je l'ai traduit comme ça que je le dis. C'est parce que un de ses contemporains, qu'on appelle l'Ottimo, qui est un des premiers commentateurs de Dante, écrit très clairement, j'ai entendu Dante dire très fréquemment que jamais la rime ne l'obligeait à dire autre chose que ce qu'il avait l'intention de dire, mais qu'il faisait dire au mot, à la rime, très souvent, mais qu'il donnait au mot, à la rime, un sens autre que celui qu'il a en général. Mmh. Bon. Donc, il dit qu'il le faisait très souvent. Et je me suis aperçue qu'effectivement, cet adjectif smarita, par exemple, tout au long de la comédie, on le retrouve. On doit le trouver bien une douzaine de fois. Et il n'a pas le sens toujours de perdu. Il a des sens voisins, distincts, jusqu'au paradis où il a le sens de ébloui. Dante dit que devant la lumière qu'il voit enfin et qui est celle de l'amour, le point lumineux, ses yeux s'en étaient détachés, ils en auraient été smariti, c'est-à-dire éblouis. On ne va pas dire qu'ils en auraient été perdus.
Ouais. Bon. Donc vous nous donnez là des clés pour comprendre la Divine Comédie, mais est-ce que vous avez le sentiment que le lecteur doit en passer par cette connaissance-là? Autrement dit, comment aborder pour la première fois l'enfer de la Divine Comédie? Est-ce qu'on peut le lire comme ça, sans toutes ces connaissances?
Alors, le lecteur n'est pas obligé, n'est pas un traducteur, il n'est ni un philosophe, forcément, il n'est pas obligé d'avoir toutes les connaissances en lui, d'avoir tout à sa portée pour pouvoir lire l'œuvre. Il faut qu'il puisse lire l'œuvre paisiblement et la comprendre.
On n'a pas besoin d'avoir quand même le contexte historique, par exemple.
Eh bien, c'est au traducteur de le lui donner, ce contexte. C'est pourquoi j'ai mis beaucoup de notes, un appareil critique assez important dans à la suite de cette traduction, parce que effectivement, si on n'a pas les clés, les données de toutes sortes, historiques, métaphysiques, théologiques, géographiques, tout ce qu'on veut, si on n'a pas tout ça, et même linguistique, on passe à côté. On ne peut pas vraiment comprendre l'œuvre, c'est vrai. C'est une œuvre difficile.
On n'est pas, il faut être un peu érudit quand même pour aborder cette œuvre, mais on peut la faire lire quand même à
Bien
tout
sûr.
Le monde.
Absolument. Ouais. Absolument. De toute façon, Dante, lorsqu'il l'a écrite, n'a pas été lu que par les érudits. Il y avait très peu de gens qui savaient lire à son époque. La plupart étaient analphabètes, mais il y avait une grande tradition de mémorisation par la parole, par la profération. Et donc, le peuple italien entendait les vers de Dante et les a intégrés à sa culture.
Par moi, on va dans la cité dolente. Par moi, on va dans l'éternelle douleur. Par moi, on va parmi la gente perdue. Justice a mû mon sublime artisan. Puissance divine m'a faite. Et la haute sagesse est le premier amour. Avant moi, rien n'a jamais été créé qui ne soit éternel. Et moi, je dure éternellement. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Ces paroles de couleur sombre, je les vis écrites au-dessus d'une porte. Aussi je dis, Maître, leur sens m'est dur. Et lui à moi, en homme qui savait mes pensées, ici il convient de laisser tout soupçon. Toute lâcheté ici doit être morte. Nous sommes venus au lieu que je t'ai dit, où tu verras les foules douloureuses qui ont perdu le bien de l'intellect. Et après avoir mis sa main dans la mienne, avec un visage gai qui me réconforta, il me découvrit les choses secrètes. Là, pleurs, soupirs et hautes plaintes résonnaient dans l'air sans étoiles, ce qui me fit pleurer pour commencer. Diverses langues et horribles jargons, mots de douleur, accents de rage, voix fortes, rauques, bruits de mains avec elles, faisaient un fracas tournoyant, toujours dans cet air éternellement sombre, comme le sable où souffle un tourbillon.
Chant 3 de l'Enfer, lu par Guillaume Gallienne, où Dante lit l'écriture au frontispice de la porte. Et ce qu'il voit, évidemment, le plonge dans la crainte. « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance », phrase devenue célébrissime. Qu'est-ce qui se passe quand on passe la porte de l'Enfer? On entre dans un nouveau monde, un monde inconnu?
Certainement pour Dante et Virgile.
Et pour le lecteur aussi.
Pour le lecteur aussi, oui. On aborde une série de cercles qui forment un cône. Ils descendent tous les deux et rencontrent tout au long de ces cercles une foule de gens.
Plutôt des gens célèbres.
Il nomme les gens célèbres et puis d'autres qui le sont moins mais qu'il a inventé. Enfin, il y a un peu de tout. Et il y a surtout des foules, beaucoup de monde. Et ce sont tous des damnés. Donc c'est pourquoi il dit « laissez toute espérance ». En enfer, il n'y a aucune espérance possible. Ils ont déjà été jugés et ils sont damnés parce que ils ne se sont pas repentis. Ils ont commis des erreurs, des fautes graves. Et ils ne s'en sont pas repentis, donc ils sont damnés. En revanche, au purgatoire, il y aura aussi des ombres qui purgent une peine. Ils ont aussi commis des erreurs, mais ils se sont repentis. Donc, eux savent qu'ils vont être sauvés. Et alors, l'atmosphère du purgatoire est totalement différente de celle de l'enfer.
On va en parler d'ailleurs de l'atmosphère du purgatoire, mais restons un petit peu en enfer quand même. où Dante et Virgile rencontrent Paolo et Francesca.
Ah.
C'est un des moments les plus connus de l'enfer. Ça se passe au champ 5 et au deuxième cercle des luxurieux. Ce sont des luxurieux, c'est un couple qui s'aimait, mais qui n'avait pas le droit de s'aimer.
Oui, alors on dit le couple des luxurieux. L'histoire de Paolo et Francesca n'est pas une histoire de luxure du tout, c'est une histoire d'adultère, oui, qui a existé dans quelques années avant que Dante ne l'écrive. Elle avait défrayé la chronique, tout le monde connaissait les personnages.
Que s'était-il passé ?
Bien, c'était un seigneur, le seigneur de Malatesta, qui avait épousé Francesca da Rimini, qui était beaucoup plus jeune que lui, et ce personnage était assez déplaisant. C'était certainement un mariage arrangé, et il avait un frère qui, lui, était extrêmement attrayant. Donc, Francesca est tombée amoureuse du frère, et réciproquement, et le mari les a surpris et les a tués tous les deux. Voilà. À partir de là, Dante fait un exemple. Un
oui,
exemple, non que... pas moral, non pas attention, ne commettez pas d'adultère. Il raconte, il fait raconter par Francesca l'histoire qui lui est arrivée et c'est tout autre chose qu'une leçon de morale.
Parce qu'ils sont quand même doublement victimes, enfin, avec absolument, des yeux d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Pourquoi vont-ils dans l'enfer après tout?
Alors, ils vont en enfer parce que, bon, ils ont quand même commis une faute.
Ils ont eu un entretien, tous les deux. Bon, c'est une petite faute.
Oui, oui. Alors, c'est dit avec beaucoup de pudeur, on ne sait pas. Mais ils ont été doublement traîtres, disons. Elle à son mari, lui à son frère. C'est ça qui déplaît à Dante. Mais il ne porte pas un jugement moral. Lorsque Francesca lui raconte cette histoire tragique, la fin est absolument poignante. Durant le récit de l'un des esprits, l'autre pleurait. Si bien que, de pitié, comme si je mourais, je défaillis. Et comme tombe un corps mort, je tombais. Bon, il s'évanouit de compassion. Donc, ce n'est absolument pas... il ne se situe pas sur un simple thème de loi observée ou non observée.
Oui. Alors, parlons d'un autre passage de l'enfer. C'est le dernier voyage d'Ulysse. C'est au 26e chant. Oui. Le dernier voyage d'Ulysse, c'est un épisode un peu énigmatique que vous pouvez peut-être nous éclaircir.
Oui. Dante rencontre donc en enfer Ulysse qui lui raconte la fin de sa vie, de son histoire. Ulysse est mort, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dante n'a pas eu accès à l'Odyssée intégralement, puisqu'il ne lisait pas le grec. On lui a raconté sans doute. Est-ce qu'il a su la véritable fin de l'Odyssée? Est-ce qu'il a su que Ulysse était revenu dans sa patrie, avait retrouvé sa femme, son fils, etc., ou non? Ce qu'il en dit, c'est « Quand je quittais Circé, rien n'a pu me faire dévier de ma route, ni ma femme, ni mon père, ni mon fils, etc. Et j'ai dit à mes compagnons, il faut continuer. Voilà. » Alors Ulysse, c'est l'hubris, c'est la soif dévorante de connaissance. Et c'est ça qui le perd. Mmh. Parce que c'est une soif dévorante sans la grâce. Et Ulysse est un païen. Mmh. Donc, ensuite, il est un double de Dante. Dante, lui aussi, commet des erreurs. Il a aussi d'autres formes de dire. Mais lui, il va aller vers le salut, parce que lui, il a la grâce.
Alors passons au purgatoire. Le thème de purgatoire a été défini comme ce lieu intermédiaire entre l'enfer et le paradis seulement en 1274 par le second concile de Lyon. Je propose d'écouter, avant qu'on en parle, ce que l'historien Jacques Le Goff disait à ce sujet.
Très tôt, les chrétiens se sont préoccupés du sort des morts dans l'au-delà et ont cherché un moyen pour ceux qui risquaient d'aller en enfer de les tirer de cet enfer. Dès le 6e, 7e siècle, on imagine qu'il y a, en général, c'est un coin de l'enfer ou près de l'enfer, dans l'au-delà, que l'on appelle locus purgatorius, une sorte d'antichambre au paradis où ceux qui arrivent sans pouvoir être admis tout de suite ont la possibilité de se purger. Le mot purgatorius, qui m'a donné purgatoire, est très intéressant, me semble-t-il, parce que il est entre la purge et la purification. Il y a donc un élément en quelque sorte matériel dans le passage par le purgatoire, on est purgé de ses impuretés, de ce qui reste de péché, mais en même temps, on acquiert progressivement un état différent, un état de pureté qui permet d'être admis au paradis.
Des œuvres sur France Culture. Ce qu'on comprend de ce que disait Jacques Le Goff, Daniel Robert, c'est qu'au fond, l'invention du purgatoire, elle est assez contemporaine de l'existence de Dante. Donc Dante parle immédiatement de quelque chose qui vient d'arriver dans les consciences, plus ou moins.
Oui, oui. Mais il remodèle la chose à sa façon et il crée un lieu, comme le dit très justement Jacques Le Goff, où tout le monde purge et se purifie. Et cela se fait dans la quiétude et dans la joie. Les personnes rencontrées, les ombres rencontrées au purgatoire, n'ont aucune haine, aucune rancune, même lorsqu'elles se sont battues, elles ont été ennemies, elles s'entraident.
Pourtant c'est dur, hein, le purgatoire.
C'est dur, les souffrances physiques sont dures, certains ont les paupières cousues, les autres rampent sur le sol, c'est dur. Mais ils acceptent cette punition parce que c'est la condition pour être sauvés. Ensuite, ce qui est tout à fait propre à Dante, c'est l'invention du paradis terrestre qui se trouve au sommet du purgatoire. Parce que ça, ce n'est pas l'Église catholique qui l'avait énoncé.
Alors pourquoi ajoute-t-il ce paradis
c'est
terrestre ?
C'est création poétique. Et il voit dans ce purgatoire une longue marche vers le salut et vers le paradis. Et l'étape intermédiaire, c'est un retour à l'innocence première, au jardin d'Éden, dont Adam et Ève ont été ensuite
chassés.
Éjecté.
Alors, dans ce purgatoire, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir d'instrument de musique, mais on a le droit de chanter quand même.
Ah oui.
Ça change beaucoup de choses.
Oui, il y a énormément de musique, jamais instrumentale, toujours vocale. Et Dante laisse libre cours à ses qualités de mélomane et à son goût pour la musique et pour le développement de la polyphonie,
oui, qui
était à ce moment-là en pleine expansion.
On peut noter aussi que le purgatoire n'est pas sous terre. C'est une montagne, donc il est à l'air libre.
Oui, oui, c'est une montagne qui se situe dans l'hémisphère sud, exactement aux antipodes de Jérusalem. Et au-dessus, il y a donc ce paradis terrestre qui est un lieu qui n'est pas inhabité. Il va y avoir une rencontre dans ce paradis terrestre.
Racontez-nous.
C'est la personnalité de Matelda, qui est un personnage dont personne ne connaît l'origine. Il y a eu énormément de gloses là-dessus. On a cherché à savoir qui elle était, peut-être une contemporaine de Dante, peut-être la philosophie, peut-être ceci, cela. C'est une figure poétique inventée, bon, créée. Et elle va servir d'intermédiaire entre Dante et Béatrice. C'est elle qui va le conduire vers Béatrice, en lui faisant passer le laité et le Noé. Là aussi, il y a une création dantesque. Le laité existe, c'est un fleuve des enfers du monde païen, mais le Noé n'existait pas. Il a donc inventé ce deuxième fleuve après le laité qui fait oublier toutes les fautes. Donc il lave la personne de toutes ses fautes. Le Noé, lui fait se souvenir de ce qui a été bien.
Mmh.
Bon, il devient donc un autre homme, une autre personne entièrement régénérée.
Alors, qui est-ce qu'on croise, Daniel Robert, dans ce purgatoire? Qui peut-on y rencontrer? Par exemple, il y a le luthier Bellacqua au chant 4. Alors, qui est-il, lui?
Bellacqua, alors j'en ai un souvenir un peu.
Donc c'est un gros buveur, extrêmement paresseux. Je crois que Beckett l'aimait beaucoup d'ailleurs pour cette raison-là.
Dans le cercle des gourmands. Mais il va lui permettre de. Il va parler avec Dante de poésie. Oui. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnages comme ça. Il y aura aussi Bonaggiunta da Lucca, qu'il rencontre un peu plus loin et qui va avoir une longue conversation avec lui sur l'art. Le rapport du poète à la poésie, du peintre à la peinture, de l'enlumineur. Il met en parallèle des couples comme Oderis et Dagubio. Et puis après, il y a Cimabue et Giotto. Et ensuite, Guinizelli et Cavalcanti. Et chaque fois, pour chacun de ces couples, il montre la question du caractère éphémère de l'œuvre d'art, puisqu'il y a toujours un nouvel artiste qui semble un peu dégommer le précédent, mais ce n'est pas ça. Il y a un renouvellement, mais celui qui était au départ et qui apparaît comme un ancien, ne perd pas ses qualités d'artiste, de toute façon.
Donc Cavalcanti, c'est là qu'il le met, alors.
Voilà.
Son grand ami.
Le grand ami, avec Guinizelli. Alors, il n'est pas... il est évoqué, mais il n'est pas dans le purgatoire.
Ah, il n'est pas dans le purgatoire.
Il n'est pas dans l'enfer, il n'est pas au paradis, il n'est pas dans la comédie. Et là, on s'est beaucoup demandé pourquoi. Mm-hmm. Alors, il n'y est pas personnellement, il n'est pas damné, ni sauvé, ni en possibilité d'être sauvé, mais... Constamment, il y a des références à lui dans l'œuvre. Voilà. Il est présent par son aura, oui, et par le souvenir que Dante a de son amitié pour lui, quand même.
Alors, il y a des épisodes aussi mémorables, hein, du purgatoire, si l'on peut dire, comme par exemple au chant 2, il y a la sortie d'Égypte, et donc la liberté retrouvée pour le peuple hébreu. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce moment-là, Daniel Robert?
Est-ce que vous pourriez m'en lire quelques vers?
Parce de l'Égypte, Israël étant sorti.
Le psaume.
Oui, pardon, c'est le psaume.
Oui, oui. Alors tout le purgatoire est ponctué par des psaumes. Les personnes arrivent et croisent Dante ou l'accompagnent et chantent des psaumes et souvent disent les béatitudes aussi. Alors là, ces ombres et ces personnes repenties sont dans l'espérance de la félicité et donc elles sont en train de renouer avec les vérités évangéliques et même bibliques.
Presque tout blanc était cet hémisphère, noir l'autre partie. Lorsque je vis Béatrice tourner vers la gauche, qui le soleil contemplait, jamais aigle ne l'a ainsi fixée. Et comme un second rayon du premier sort pour à nouveau vers le haut s'élancer, ou tel un pèlerin qui veut retourner, ainsi son acte, par ses yeux, insufflé dans mon imaginaire, devint le mien, et je fixai le soleil comme jamais. Là-haut, il est permis beaucoup, non point ici, à nos facultés, car ce lieu est expressément fait pour le genre humain. Je ne le soutins pas beaucoup, ni si peu que je ne l'ai vu constellé d'étincelles, comme un fer bouillonnant qui sort du feu. Et je crus soudain qu'au jour originel s'ajoutait un jour, comme si le puissant avait d'un autre soleil orné le ciel. Béatrice était fixée entièrement sur les roues éternelles par les yeux, et moi en elle, d'en haut les détachant. Je devins, plongeant en elle mes yeux, tel que devint Glaucus en goûtant l'herbe qui fit de lui en mer l'égal des dieux. Transhumané ne pourrait par le verbe s'expliquer, mais l'exemple suffira à qui la grâce expérience réserve.
Lecture toujours par Michael Cohen de ce premier chant du paradis. On a le sentiment que l'enfer et le purgatoire, dont on parle toujours beaucoup, au fond, c'est peut-être les préliminaires au paradis. Et c'est le paradis qui compte.
Oui, enfin les trois contes.
Les trois contes, bien
mais
sûr.
Bien sûr, ce sont les préliminaires, ouais. Oui, au paradis. Alors là, c'est l'arrivée au paradis et c'est encore une autre atmosphère et un autre climat. Là, on va avoir de nouveau des cercles. Hein. Il y a neuf ciels qui conduisent à l'Empyrée, qui est le dixième, et tous ces ciels, Dante est, comme il le dit, dans les yeux de Béatrice. Il fait une trajectoire très directe, lui, il ne tourne pas, il traverse les ciels en regardant Béatrice. Et elle regarde le point lumineux et, de temps en temps, se tourne vers lui et lui parle et l'aide à aller jusqu'à la contemplation.
Là,
jusqu'à la béatitude.
Il y a un épisode que vous préférez du paradis ?
Oui. Ils sont tellement magnifiques.
Lequel choisir, c'est ça ?
C'est très difficile de choisir. Bon. Il ne faut pas voir le paradis comme un passage rébarbatif, austère. Certes, il y a des chants qui sont théologiques. Il y a des conversations lorsque, par exemple, Thomas d'Aquin fait l'éloge de Saint François, que Saint Bonaventure fait l'éloge de Saint Dominique. On est dans la théologie. Il y a aussi lorsque Pierre interroge Dante sur sa foi, puis Paul sur l'espérance, puis Jean sur la charité. Ce sont des passages effectivement un peu austères. Mais à côté de ça, il y a une profusion d'images, de scènes cinématographiques, tout comme en enfer d'ailleurs. Hein. Dans l'enfer, il y a aussi des scènes de ce type, tout à fait d'un autre caractère. Mais Dante est un grand... s'est montré...
C'est un grand visuel.
Un grand visuel, oui.
Un grand cinéaste peut-être.
Il aurait pu être un grand cinéaste, de même qu'il aurait pu être un grand musicien.
Et on a l'impression que tout va vite au paradis. Tout va beaucoup plus vite qu'ailleurs.
Oui,
que dans les
oui,
autres...
oui. Au purgatoire, ça va très vite aussi. Les personnes, les groupes tournent à toute vitesse en disant « vite, vite, que le temps ne nous manque de peu d'amour ». Donc, ils sont pressés. Au paradis, il n'y a pas de raison d'être pressé. On est déjà arrivé, mais ce qui va vite, ce sont les lumières qui montent, descendent, tournent autour de Dante et Béatrice. Ils n'ont pas de corps. Ce sont des corps glorieux, mais qui n'ont pas encore revêtu le corps qui ultime. Et ce sont des lumières qui manifestent leurs sentiments et leurs émotions en devenant plus ou moins éclatantes et en s'agitant de façon très rapide.
Au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la Divine Comédie, c'est une œuvre d'art, un tableau, et que le récit, finalement, de la Divine Comédie nous présente la traversée de ce tableau?
Oui, exactement. Exactement, c'est ça.
Donc on aurait le dessin en enfer, la couleur au purgatoire, et le paradis, ce serait quoi?
Au purgatoire, on aurait surtout... oui, la couleur, oui aussi. Au paradis, c'est la lumière, mais la lumière, la clarté, ouais. La somma luce.
Merci beaucoup, Daniel Robert. Pour aller plus loin, évidemment, on recommande à nos auditeurs de se procurer les trois tomes de La Divine Comédie que vous avez traduite et présentée pour les éditions Actes Sud. Tout de suite, sur France Culture, c'est le moment de la chronique.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Vous voulez nous présenter une tronique. Aujourd'hui, Alexis Broca, à la place de votre chronique.
Ah, j'ai écrit tronique.
Non, c'est moi qui ai dit tronique. Alors, vous êtes rédacteur en chef adjoint à Lire, le magazine littéraire.
Bonjour, bonjour Mathieu.
Bonjour. Qu'est-ce qu'on trouve au menu de votre magazine ce mois-ci?
Oh, bah écoutez, là, voilà 15 jours, je vous entretenais du vaste dossier que notre numéro d'octobre consacre à la figure d'Arthur Rimbaud. Mais bien sûr, ce numéro regorge d'autres richesses. Et on va donc sortir un petit peu du dossier Rimbaud et je vais vous faire un petit peu visiter ce magazine.
Comme un autre cercle paradisiaque, bien entendu.
C'est un cercle paradisiaque et vertueux. Enfin, je l'espère. J'espère parce que ça commence par un grand entretien mené par Claire Chazal avec la philosophe Barbara Cassin, qui est cette spécialiste de l'antiquité et de la psychanalyse, dont l'autobiographie philosophique est l'un des grands succès d'édition récents. Et dans cet entretien, Barbara Cassin revient sur son éveil à la philosophie grecque via Homère, puisque pour elle, la littérature peut penser de la même manière que la pensée peut être littéraire. Elle nous parle aussi, et c'est assez touchant, de son rapport à la mort. Elle nous dit « Quand on est heureux, la mort est apprivoisée. Je ressens le bonheur de vivre tous les matins. Je lis cela au grec où les mots « mortel », « lumière » et « parler » ont la même racine. Ces trois mots font l'homme, le mortel, et c'est ce que les dieux nous envient, car ils sont privés de mort. Zeus court de femme en femme, mais il s'ennuie. La mort est ce qui, doublant la vie, permet de la vivre vraiment. » Une pensée pour notre époque.
Alors justement, je crois que vous êtes allé voir un autre de nos fameux penseurs littéraires.
Alors oui, en effet Mathieu, c'est un autre gros morceau de ce numéro, la visite rendue par l'une de nos journalistes, Laetitia Favreau, à Monsieur Pascal Quignard. Alors bon, elle n'a pas dû aller très loin pour cela, puisque ça se passe aux confins de Paris. Et Quignard, dans l'article, Pascal Quignard évoque ses habitudes d'écriture. On apprend qu'il écrit au sceau du lit, sans transition. Et il nous révèle un secret. « Dans ma famille, nous dit Pascal Quignard, la lecture était une enveloppe autorisée et même valorisée. Elle m'a souvent servi de ruse. Depuis l'enfance, je fais semblant de lire, même quand je ne lis pas. » Voilà, souvenez-vous de cette déclaration, Mathieu, lorsque vous verrez Monsieur Quignard avec un livre à la main, oui. Ça, il pense à toute autre chose. Mais plus sérieusement, ce n'est pas anodin de visiter ainsi le lieu où vit Pascal Quignard, puisque là-bas, tout semble faire signe, que ce soit le piano, le chat ou le masque chinois placé sur la bibliothèque.
Alors à propos de bibliothèque, le cahier critique, c'est l'un des points forts traditionnellement de votre revue. Qu'est-ce qu'on trouve donc dans la bibliothèque de ce numéro?
Eh bien, on y trouve tout le nécessaire pour ne pas s'égarer en librairie. Vous avez notamment un grand article de mon camarade Baptiste Liger sur le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs de Mathias Sénard, qui raconte les pérégrinations d'un anthropologue dans un petit village des Deux-Sèvres. Alors, ce pourrait être une grosse farce avec un tel argument, une farce qui se moquerait des villages ou des lubies des thésards parisiens. Et au contraire, c'est un texte très tendre avec ses personnages et aussi un texte joyeux et rabelaisien qui vous donne illico l'envie d'organiser un banquet et de reprendre à votre compte la devise de l'écrivain Raoul Ponchon. Comme on verrait plein, je le vide. Comme on verrait vide, je le plains. Quant à moi, eh bien, j'ai trouvé mon ivresse dans les pages de l'extraordinaire récit « Ruines bien rangées » de Hélène Cixous et dans la réédition des nouvelles de Philippe Cadic en quarto.
Voilà qui nous donne envie de nous procurer lire le magazine littéraire en kiosque, évidemment. Merci beaucoup, Alexis Broca.
Merci,
à très
Mathieu.
À bientôt. C'était La Compagnie des œuvres, une émission qui ne pourrait avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et aujourd'hui Laurie Vachon et Joe Dante. Demain, la suite et la fin de notre série sur Dante. Nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ferrini pour évoquer les relectures de Dante et ce jusqu'au XXe siècle.